Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je ne sais pas si le dictionnaire de la langue française va s'enrichir l'année prochaine de deux nouveaux mots, coronavirusé et se faire un zoom, mais ce serait assez dans l'air du temps de cette année 2020. Les deux sont liés. La pandémie mondiale de Covid-19 a en effet favorisé l'émergence des applications de vidéoconférence, notamment à l'heure de l'apéritif. Jusque dans la rédaction des Échos, mais ça c'était avant que les directions informatiques ne s'inquiètent des risques de failles. Et vous l'avez compris, je ne parle pas de moi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur l'incroyable parcours de l'application Zoom. Il y a trois mois, je n'en avais jamais entendu parler. Pour moi, Zoom, c'était juste le nom de l'appareil d'enregistrement que l'on utilise pour confectionner la story. Je croyais aussi qu'House Party était juste une tentative de remettre au goût du jour une certaine musique dansante. Heureusement passé de mode. Quant à Microsoft Teams, le nom me renvoyait plutôt vers l'équipe qui gère le service de presse du géant américain de l'informatique. Bref, ce fut pour moi une découverte, et sans doute aussi pour beaucoup de Français, peu habitués au travail collaboratif à distance. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les concepteurs de cette application. J'ai donc organisé une consultation par téléphone, mais pas avec Zoom, avec plusieurs journalistes des Échos. Nicolas Richaud et Florian Deb du service Hightech Media et Anaïs Moutot, correspondante du journal à San Francisco. Bonjour Anaïs Moutot.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes la correspondante des Échos en Californie. Zoom Video Communication, c'est une société née en Californie. On imagine une start-up, mais c'est déjà une société cotée, née il y a près de 10 ans. Hein.
Donc, en fait, la société elle a été créée en 2011 à San Jose, qui est dans le cœur de la Silicon Valley. Et la plateforme elle a été lancée en 2013, deux ans plus tard. Ils ont eu d'abord beaucoup de clients dans la tech, des boîtes comme Box, Slack, etc. Et après, ils se sont étendus à d'autres entreprises un peu plus diverses, Gap, HSBC. Et comme beaucoup de startups qui sont nées lors de cette dernière décennie 2010-2020, Zoom a pris son temps avant de s'introduire en bourse. Et donc finalement, l'année dernière, son patron a décidé de sauter le pas en avril 2019. Et ça a été un énorme succès, notamment comparé à des startups qui sont beaucoup plus connues en Californie et qui avaient des valorisations bien plus élevées, notamment Uber qui s'est introduit juste avant. Et en fait, la clé du succès, ça a été que Zoom avait quelque chose d'assez rare parmi ces startups californiennes qui prennent le chemin de la bourse, qui est qu'elle était rentable. Alors, le bénéfice n'était pas énorme, 7 millions de dollars, mais c'était un bénéfice quand même, ce qui est rare ici.
Et l'entreprise s'est surtout fait connaître dans le monde de l'entreprise avec un service gratuit et en même temps payant.
Alors oui, ils ont ce qu'on appelle un modèle freemium qui est assez répandu dans le monde du logiciel pour entreprises accessibles dans le cloud. Donc en fait, ils ont une première couche de fonctionnalités gratuites. C'est-à-dire n'importe qui peut utiliser Zoom gratuitement pour lancer une vidéoconférence pendant 40 minutes avec des groupes qui peuvent monter jusqu'à 100 participants. Et ensuite, c'est même possible de recommencer pendant 40 minutes supplémentaires en recliquant sur le lien. Mais au-delà de ça, pour des groupes qui sont plus larges, pour des durées plus longues, il faut payer et aussi pour accéder à des fonctionnalités plus avancées comme l'interconnexion avec les systèmes hardware dans les salles de conférence des entreprises, le stockage dans le cloud, la retranscription de la réunion, etc. Et en fait, ce modèle premium, il est inspiré par Dropbox, qui est le service de stockage de documents en ligne. L'idée, c'est de séduire des utilisateurs individuels avec un produit gratuit et d'en faire en quelque sorte des évangélisateurs du produit dans l'entreprise pour que petit à petit, différents départements, marketing, RH, etc., ils passent à une version payante pour l'ensemble des salariés. Et l'avantage de ce modèle, c'est que du coup, les coûts d'acquisition des clients sont très faibles. Donc, il y a des dépenses qui ne sont pas très élevées.
Vous aviez eu déjà, vous, l'occasion de l'utiliser avant le confinement ?
Alors, oui. Dans la Silicon Valley, il y a pas mal de patrons, en fait, quand on a des interviews qui passent par ce service-là. Donc, en fait, la communication envoie un lien Zoom Et c'est donc très simple. C'est à peu près autant utilisé que Google Hangouts. C'est un peu les deux solutions qu'on proposait souvent pour une interview. Mais par contre, je n'utilisais pas du tout dans la vie privée, ce qui est un peu ce qui a changé avec le confinement, où monsieur et madame tout le monde se sont mis à l'utiliser.
La société a été créée par un ancien salarié de Cisco. Hein. Cisco qui est vraiment l'un des géants de la communication aux États-Unis et bien sûr dans le monde. Il s'appelle Eric Yuan. Qu'est-ce qu'on sait de lui, si ce n'est qu'il est devenu milliardaire ?
Alors, Eric Yuan, en fait, c'est un ingénieur d'origine chinoise. Il est né en 1970 dans l'est de la Chine. Il a étudié l'informatique et les maths dans une université de sa province. Il a travaillé 4 ans au Japon ensuite, mais il voulait absolument partir vivre aux États-Unis. Il parle pas bien anglais, il parlait pas bien anglais, il parle toujours pas très bien anglais, mais il était passionné de programmation informatique et il était fasciné par le succès de Bill Gates avec Microsoft. Il voulait donc absolument venir dans la Silicon Valley, être au cœur de cette révolution numérique. Donc, il a candidaté un visa, mais on lui a refusé 7 fois avant qu'il réussisse à en obtenir un. Donc, en fait, il a eu son visa au bout de 2 ans. Donc, on voit déjà un peu le personnage assez persévérant. Et donc, en 1997, il débarque ici et il est l'un des premiers codeurs informatiques recrutés par une start-up qui s'appelle à l'époque Webex, qui est un des premiers acteurs importants des systèmes de visioconférence, qui sera donc racheté par Cisco en 2007. Donc, Eric Yuan devient vice-président de Cisco, mais il est frustré par la solution de vidéoconférence, il vit le système daté. Et donc, en 2011, il décide de lancer sa propre entreprise et il embarque avec lui les meilleurs de l'équipe, notamment pas mal de gens de la R&D en Chine. Cisco avait une équipe assez importante. Et moi, en fait, je l'ai rencontré en octobre pour faire un peu un point 6 mois après l'introduction en bourse. Il est très sympa, il n'est pas hautain du tout, mais bon, c'est marrant parce que donc, il parle toujours pas un très bon anglais, il a un fort accent chinois, mais c'est assez courant dans la Silicon Valley où la moitié des fondateurs sont immigrés. Et ce qui est un peu ressorti de l'entretien, c'est que c'est le patron typique de la Silicon Valley consacré entièrement à sa boîte, quoi. Il n'y a pas grand-chose en dehors, donc je lui demandais un peu s'il faisait d'autres choses et il me disait qu'à la fin de la journée, il méditait quotidiennement. En fait, sa définition de la méditation, c'est de réfléchir à ce qu'il aurait pu faire de mieux dans sa journée de travail. Donc, c'est une méditation avec un but assez productif, disons. Sinon, c'est quelqu'un qui a un très bon VRP, il fait tout sur Zoom. Donc, il me racontait comment il avait fait tout son roadshow pré-IPO entièrement sur le logiciel. En fait, c'était sa directrice financière qui se déplaçait pour rencontrer les banquiers, qui ouvrait son ordinateur et qui se connectait à Zoom où Eric Yuan apparaissait. Donc, il s'était vraiment fixé comme objectif de ne voyager que 2 fois par an. Donc, sur les 5 dernières années, il a pris l'avion que 2 fois par an. En fait.
J'ai lu aussi dans un article de Vanity Fair qu'il réfléchissait à cette idée d'une application comme Zoom depuis ses 18 ans. C'était à la fin des années 80. Il était à l'université, loin de sa petite amie. Il avait alors raconté à Forbes « Je devais faire plus de 10 heures de train pour la voir et ce n'était possible que 2 fois par an. Je me suis dit que ce serait bien si dans le futur, je pouvais juste lui parler et la voir en appuyant sur un bouton. Comme par magie, il y a d'ailleurs un côté conte de fées. L'application Zoom va connaître un énorme succès grâce au confinement. » Pour la suite de ce récit autour de Zoom, j'ai choisi le coup de fil à un ami, Nicolas Richaud, pour qu'il me parle justement de la façon dont le grand public s'était emparé de cette application.
Les gens s'en servent pour le boulot, pour appeler leurs parents, pour suivre des cours de yoga. Et là, Zoom, en moins de 4 mois, ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions. C'est juste gigantesque. C'est plus que Snapchat, par exemple. Et en fait, Zoom, c'est intéressant parce que c'est une histoire particulière. C'est un outil qui a d'abord été utilisé dans les entreprises, en B2B, comme on dit dans le jargon, et c'est un produit qui maintenant a réussi à avoir les faveurs du grand public avec le confinement.
Ça s'explique comment ?
Bah, c'est un produit qui est très simple à utiliser. On vous envoie juste un lien, vous vous connectez, il est gratuit. Donc voilà, si moi je m'en sers avec un ami, mon ami il trouve ça bien, il va s'en servir au boulot avec d'autres collègues et ainsi de suite. En fait, il y a un effet de réseau qui a très bien fonctionné pour cet outil.
1, 2, 3, coula.
Et Nicolas, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu des concerts aussi, comme on a pu l'entendre sur I24 News. Un chef d'orchestre, par exemple, qui a réuni ses 36 musiciens sur Zoom pour interpréter un morceau de musique.
Alors oui, il y a eu des concerts, mais encore plus surprenant, il y a eu des mariages, il y a même des boîtes de nuit qui ont été ouvertes. Voilà, donc bienvenue en 2020, vous n'êtes pas dans Black Mirror. Et c'est des boîtes de nuit, il y a un videur à l'entrée parfois qui vérifie si vous avez le bon dress code, c'est payant, vous pouvez passer d'une salle à une autre, il y a un DJ qui mixe. Enfin voilà, ça fait rêver.
C'est vraiment toute une génération aussi qui s'est emparée, si j'ai bien compris, de cette application.
Ouais, bah c'est beaucoup pour les trentenaires. C'est les jeunes, mais c'est aussi intergénérationnel quand même. Des gens au travail qui savaient pas de quel outil se servir en fait en étant en télétravail, ils sont allés sur Zoom parce que c'est le plus pratique, parce qu'ils en ont entendu parler.
Alors la conséquence de tout ça, hein, de fait que le grand public soit venu en masse, qu'il y a eu des centaines de milliers, des millions de téléchargements de cette application, bien l'action s'est envolée en bourse, c'est ça ?
Alors ouais, l'action, quand le confinement a vraiment commencé à devenir massif dans le monde, Zoom a décollé très vite à Wall Street alors que tout autour, les actions, elles s'effondraient. Et tout se passait très bien et ensuite, bah, les bad buzz ont commencé.
Un bad buzz véhiculé notamment par une pratique appelée le Zoom bombing.
Hey, I'm from New York. Remember this day on New York? Denver 11. Yeah.
Une session Zoom qui réunit une dizaine de personnes. Tout à coup, on voit apparaître une courte vidéo sur l'écran des attentats du 11 septembre avec un commentaire audio pour le moins stupide.
Yo, Zoom had been tagged.
I'm gonna mute all. It seems like our Zoom has been a little hacked.
Excuse me.
Yes.
But did we hack you?
Excuse me, I work for Zoom.
Haley, show your breast.
Les autres intervenants se rendent compte qu'il y a un problème et l'on entend alors le troll poser cette question potache. Vas-y, montre-nous tes seins. Et dans cette vidéo trouvée sur le site The Next Web, ce n'est qu'un des exemples de ces blagues douteuses. J'ai aussi appelé sur son portable Florian Deb pour aborder ses questions de sécurité. Je parlais tout à l'heure d'un conte de fées, et comme souvent dans les contes de fées, il arrive des misères au personnage principal. Florian, qu'est-ce qui s'est passé avec l'application Zoom ?
D'abord, c'est la rançon du succès. Avec un tel engouement pour la solution Zoom, beaucoup de chercheurs en cybersécurité ont regardé ce qu'il y avait sous le capot. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vole en escadrille. Il y a d'abord des problèmes de Zoom bombing, c'est-à-dire en fait des personnes, des inconnus qui s'immiscent dans les conversations privées que peuvent tenir les gens sur Zoom. Ils se mettent à vociférer des insultes antisémites, à diffuser des contenus interdits aux moins de 18 ans. C'est problématique et c'est très facile à faire sur Zoom. C'était très facile à faire parce qu'il n'y avait tout simplement pas de mot de passe pour accéder à une conversation.
Donc n'importe qui pouvait s'inviter, hein, c'est ça ?
Exactement, il suffisait de lancer quelques chiffres au hasard pour accéder à une réunion et on arrivait au milieu d'une conversation et on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Ça a été réglé depuis, mais il y a encore quelques semaines, c'était un problème. Autre difficulté de Zoom, il y a eu des problèmes sur le chiffrement des données. Le chiffrement, c'est une technologie à base de mathématiques qui permet de sécuriser les conversations et de faire en sorte que uniquement les participants aux échanges puissent accéder plus tard à l'enregistrement de leurs échanges. Et Zoom promettait que c'était le cas. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça que la solution fonctionnait et que Zoom lui-même, les ingénieurs de Zoom, avaient accès à ces fichiers audio et vidéo. Évidemment, les utilisateurs n'ont pas apprécié, eux qui pensaient être en sécurité. Autre souci, certains serveurs de l'entreprise sont installés en Chine. Et comme souvent, la localisation des serveurs peut poser des problèmes de droit. Des entreprises utilisatrices de Zoom peuvent exiger que leur conversation soit à l'abri de la curiosité de certains gouvernements. Or, si les serveurs sont en Chine, le gouvernement chinois peut y accéder. Et là encore, elles n'étaient pas au courant, ces entreprises.
L'application est moins bien protégée que d'autres applications du même genre ?
Alors, Eric Yuan, le patron de Zoom, a fait le choix de l'aisance d'utilisation. Pour lui, que ce soit facile de lancer une conversation, que l'expérience soit agréable, était finalement plus important que la sécurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas de mot de passe, par exemple, pour accéder à une réunion. Un mot de passe, c'est une contrainte supplémentaire. Dans l'esprit d'Eric Yuan, c'était comme ça que le problème était posé. Ça lui revient comme un coup de bâton. Aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité fait également partie de la demande des utilisateurs et de ses clients. Et pour l'instant, il n'a pas beaucoup travaillé sur le sujet. Beaucoup d'entreprises recrutent un patron de la sécurité au bout de 30, 40 salariés. Il y a un patron de la sécurité dans l'entreprise. Chez Zoom, ce n'est pas du tout le cas.
Et pourtant, c'était une société de plusieurs centaines d'employés. Hein.
Exactement, oui.
Effectivement, il a fallu attendre le 9 avril pour que Zoom embauche un responsable de la sécurité. Et le groupe, qui emploie tout de même plus de 2500 personnes, est allé chercher chez Facebook Alex Stamos pour améliorer la confidentialité et la sécurité de son service. Il y avait un peu le feu au lac avec ce bad buzz et notamment ce scandale qui a touché la presse britannique avec ce journaliste du Financial Times accusé d'avoir espionné les réunions Zoom de ses concurrents The Independent et l'Evening Standard. Florian, l'un des gros concurrents de Zoom s'appelle Teams, c'est une application de Microsoft. On imagine que Zoom n'a pas forcément les moyens de son immense concurrent.
Alors aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes moyens que Microsoft, mais leurs moyens sont malgré tout largement suffisants pour assurer un minimum de sécurité. On se souvient que Microsoft, bien longtemps après sa création, avait toujours ce type de problème de sécurité. Finalement, la sécurité, c'est aussi une histoire de culture d'entreprise. Et tant que le sujet n'est pas pris à bras le corps, il y a des négligences qui peuvent être exploitées par tout individu mal intentionné. À la fin des années 90, Microsoft avait une très mauvaise réputation en cybersécurité. Aujourd'hui, ils font partie des meilleurs. Donc, on peut espérer que Zoom va prendre le bon virage.
Comment est-ce que les clients ont réagi à ces pratiques, que ce soit le Zoom bombing ou les problèmes de chiffrement ou de sécurité ?
Alors, il y a un peu deux camps parmi les clients. Certains qui se sont sentis un peu trahis par la solution, notamment aux États-Unis. Il y a des sociétés comme Google, par exemple, qui ont décrété qu'il était maintenant interdit d'utiliser Zoom lors des réunions internes. Entre parenthèses, Google a lui aussi sa propre solution. Du coup, on peut aussi se dire que c'est juste ne pas se servir de l'outil d'un concurrent. Mais elles sont très nombreuses, ces entreprises aux États-Unis, à avoir banni Zoom. D'autres ont considéré qu'il fallait uniquement bannir Zoom pour les conversations les plus importantes. Par exemple, si c'est pour faire une réunion de service hebdomadaire, on peut utiliser Zoom. Si c'est pour la grande réunion entre deux PDG, on ne va pas utiliser Zoom. Il y a des niveaux de sécurité à avoir, une analyse de risque qui a été menée par différents groupes. En France, c'est notamment le cas. Le CIGREF, qui est un réseau de directeurs informatiques, par exemple, a émis une recommandation négative autour de Zoom, tout en précisant néanmoins qu'il fallait évaluer le risque pris en fonction de la sensibilité des données échanger ou qui faisait l'objet de la conversation sur Zoom.
On évoque aussi des risques d'action en justice contre l'entreprise.
Alors, les actionnaires ont investi dans une entreprise qui leur avait promis que tout était sécurisé. Donc évidemment, ils se sentent floués. Certains ont déjà lancé des actions en justice, notamment une class action. On va voir comment est-ce que tout ça va se régler. Mais c'est sûr que du point de vue de la valeur de l'entreprise, le fait qu'il y ait un problème de sécurité pose problème. Dans le même temps, on a bien vu que l'usage ayant grandement augmenté, la capitalisation boursière de Zoom a, elle aussi, beaucoup augmenté.
J'ai une question un peu provocante peut-être, mais est-ce que le fait que le créateur soit d'origine chinoise, cela a suscité des inquiétudes quant à un éventuel espionnage industriel ?
Alors, c'est une question qui peut se poser et qui est parfois soulignée aux États-Unis. Moi, j'ai posé la question aux gens chez Zoom qui m'ont presque ri au nez en me disant que ce n'était pas du tout ça le sujet. Cela dit, Eric Yuan, c'est évidemment le Chinois qui réussit aux États-Unis dans un contexte où les tensions entre l'économie chinoise et l'économie américaine sont assez exacerbées. C'est pas idiot de se poser la question.
Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la Silicon Valley maintenant hein, depuis de nombreuses années. Hein, on a vu ça avec Anaïs. Florian, vous parliez des administrations des entreprises. Moi, je sais qu'il y a des professeurs qui utilisaient Zoom qui ont aussi reçu consigne d'arrêter d'utiliser l'application pour donner cours aux élèves, par exemple. Bon, les utilisateurs ne payaient pas tous hein, pour les utiliser, mais est-ce que cette image, c'est mauvais pour les affaires ?
Alors, évidemment, sur les 300 millions d'utilisateurs de Zoom, très très peu payent réellement pour le service. Quand les profs invitent des élèves pour faire l'école à la maison via cette technologie, la plupart ne payent pas. En soi, le business de Zoom n'est pas atteint aujourd'hui. Évidemment, si de plus en plus d'entreprises qui sont les vrais clients de Zoom et qui a priori vont le rester, si ces entreprises-là se posent de plus en plus de questions sur la sécurité informatique. On sait que c'est crucial en ce moment et que c'est un des sujets clés des dirigeants d'entreprises aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir si beaucoup d'entre elles vont à nouveau signer des contrats avec Zoom. L'entreprise dit avoir beaucoup de nouveaux contacts pour des clients futurs, puisqu'évidemment, le télétravail se développe énormément en ce moment. Les entreprises ont besoin de solutions de visioconférence telles que Zoom. À voir si leur choix se portera sur cette entreprise-là, qui a pour l'instant une réputation plutôt mauvaise en la matière comparée à ses concurrents, ou est-ce qu'elles choisiront la simplicité d'utilisation de Zoom et tout simplement l'efficacité. Il y a quand même beaucoup moins de bugs techniques sur Zoom que sur les autres plateformes.
C'est vrai que Zoom est simple d'utilisation et que le rendu sonore est plutôt agréable. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le groupe. Google vient en effet d'annoncer qu'il offrira gratuitement sa solution concurrente Meet progressivement à partir du 4 mai. Nicolas Richaud, je parlais avec Florian Deb des difficultés rencontrées par Zoom avec son application. Et le plus surprenant, c'est que l'action ne s'est pas effondrée en bourse.
Alors, ils ont quand même vécu un sale moment, hein, quand même, juste après toute cette séquence. Zoom a reculé de 30% à Wall Street en 2 semaines. Mais là, depuis, ça va beaucoup mieux. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont fait amende honorable. Leur patron a été cash. Il a dit, j'ai vraiment foiré. Ensuite, ils ont communiqué sur les 200 millions d'utilisateurs quotidiens, puis les 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Et ça, forcément, ça a beaucoup plu à Wall Street. Là, aujourd'hui, on est le vendredi 24 avril et ils battent le record en bourse. La capitalisation, elle est presque de 50 milliards de dollars. C'est énorme. Il y a juste 3 ans, quand c'était encore une start-up, Zoom valait juste 1 milliard. C'était une toute petite licorne. Et puis surtout là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont assuré que le chantier de la cybersécurité, c'était la priorité. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on a vu avec Facebook et l'affaire Cambridge Analytica, qui était quand même un scandale d'une toute autre ampleur. Les marchés financiers, globalement, ils font confiance aux boîtes pour résoudre ce type de problème. Et ça fait pas fuir les utilisateurs, en tout cas les particuliers.
On a eu une ou deux failles qui ont été révélées et donc on y a remédié en 24 heures, ce qui est assez impressionnant de réagir aussi rapidement. Donc c'est que vraiment c'est quelque chose qui est sensible et donc on y prête une énorme attention.
On vient d'entendre justement les excuses de Loïc Rousseau, c'est le directeur de Zoom pour la France. Il était interrogé via son application par Sébastien Coinou sur BFM Business. Nicolas, quel avenir justement pour Zoom après le confinement ?
Tous les experts et autres acteurs du secteur qu'on a interrogés pour notre enquête, là, ils sont optimistes, hein, déjà parce que même après le confinement, le télétravail, ça va rester un secteur en plein boom. Et Zoom, bah, ils sont hyper bien placés pour en profiter. Alors forcément, leur réputation, elle a été bien écornée, là, donc ça va être compliqué de travailler avec des grands groupes ou des boîtes qui bossent dans des secteurs stratégiques. Mais Zoom, ça reste un super outil de visio, c'est pas cher, et donc ça peut convaincre plein de PME. Et d'ailleurs, c'était déjà le cœur de cible de Zoom avant tout ça. Zoom, c'est pas énormément utilisé par des grandes marques, c'est avant tout destiné aux petites et moyennes entreprises.
Oui, c'est vrai que les grandes entreprises préfèrent peut-être utiliser une marque comme Microsoft Teams.
Oui, avec Teams, ouais, c'est ça les rassure davantage. Et Zoom, c'est vraiment les petites et moyennes entreprises. Et voilà, c'est des boîtes qui ont un peu moins d'argent à investir dans ce type d'outils. Et du coup, ça convient parfaitement pour leur activité.
Alors Nicolas, on a vu qu'il y avait eu un bad buzz assez incroyable, hein, sur cette valeur. Malgré tout, et ça, c'est peut-être important aussi pour l'avenir, la société, finalement, elle s'est fait un nom. Hein.
Bah, elle s'est fait un nom et même plus que ça, c'est devenu un verbe, notamment dans la Silicon Valley. Et finalement, c'est pas donné à toutes les marques de rentrer dans le langage courant. Comme ça, Zoom, il rentre dans la famille là, de Google, Shazam, mais aussi Frigidaire ou Caddy. Et puis, faut pas oublier hein, que Microsoft, ils avaient essuyé beaucoup de critiques aussi il y a une vingtaine d'années pour des problèmes de sécurité. Et ils ont réglé ça, ils s'en sont relevés. Maintenant, ils valent plus de 1300 milliards de dollars en bourse. Ils sont devant Apple en bourse aujourd'hui. Donc, Zoom, ils sont très loin d'en être là, hein, mais ils peuvent tout à fait se remettre de toutes ces polémiques. Ça, c'est déjà vu.
Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait aussi se faire racheter ?
Ouais, ça semble quand même aujourd'hui vraiment très, très bien valorisé. Donc, c'est toujours compliqué là de convaincre des investisseurs comme ça. Et puis, 50 milliards de dollars avec eux. Une surallocation en bourse, ça veut dire qu'il faudrait dépenser dans les 70 milliards. Je vois pas énormément de groupes qui ont assez de cash pour ça. Peut-être les GAFA, mais ça semble compliqué quand même là.
Il y a quelques jours, Mozilla, le propriétaire du navigateur Firefox, a réalisé une enquête sur le respect de la vie privée et la sécurité de 15 services de vidéoconférence. 6 ont obtenu la note maximale de 5 étoiles. Duo, Hangout et Meet, 3 services de Google, Messenger et Skype. Et enfin Zoom, preuve que la société a su redresser la barre. Merci Nicolas Richaud et Florian Deb du service high-tech média des Échos. Merci aussi à Anaïs Moutot, correspondante des Échos dans la Silicon Valley. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.